Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans La Lorgnette, votre magazine de société sur Studio Zef. Cette semaine, à l'occasion du Salon de l'Agriculture de Paris, qui se tient du 25 février au 5 mars prochain, nous avons voulu poser quelques questions à un syndicat agricole qui sera présent lors de ce salon. Cette semaine, je m'entretiens donc avec Paul-Emmanuel Boulet, agriculteur à Azé, au nord de Vendôme, et porte-parole de la Confédération Paysanne du Loir-et-Cher. Par téléphone, il évoque avec nous les grands enjeux qui agitent le monde agricole. Bienvenue dans La Lorgnette. Je suis donc en entretien téléphonique avec Paul-Emmanuel Boulet, porte-parole de la Confédération Paysanne du Loir-et-Cher. Bonjour Paul-Emmanuel, vous m'entendez bien ?
Oui, très bien, bonjour.
Alors, cette émission, on voulait l'orienter autour de l'agriculture en général, avec quand même donc cette porte d'entrée qui est le grand raout annuel du monde agricole, qui est le Salon international de l'agriculture. Je voulais savoir déjà, pour commencer, que représente le Salon de l'agriculture pour la Confédération Paysanne ? Est-ce que c'est Disneyland ou vous avez quand même des choses à y faire, des enjeux à exposer et des sujets à médiatiser ?
Alors, on est quand même présent, effectivement, on est présent, même si... c'est pas forcément un endroit où on s'y retrouve parce que on est quand même sur une vision de l'agriculture très industrielle.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est on y est quand même présent parce que c'est important d'y être présent parce que tout le monde doit y être et que pour montrer aussi qu'on existe, qu'il y a une d'autres façons aussi de voir l'agriculture. Donc voilà, après c'est vrai que ça reste quand même des grosses entreprises qui sont présentes et assez, on est aussi un peu dans la, comment dire, dans le folklore de l'agriculture et c'est pas ce qu'on veut forcément transmettre nous avec la Confédération Paysanne.
Ouais, j'imagine que c'est parfois difficile de cohabiter sur ces quelques jours-là avec Lactalis, Nestlé ou la FNSEA pour ne citer que.
Voilà, par exemple, parce que c'est des entreprises sur lesquelles on adhère pas du tout forcément
vos visions sont radicalement différentes, ouais.
Alors, complètement, voilà. Donc voilà, après, c'est bien pour ça aussi qu'on a développé depuis 2 ans, depuis le confinement. En fait, on s'est un peu rapproprié le salon de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on organise, en fait, des salons de l'agriculture, mais au niveau local. C'est-à-dire qu'on ouvre dans chaque département, il peut y avoir 2 à 3 fermes qui s'ouvrent sur donc tout la durée du donc sur un week-end pendant la durée du salon de l'agriculture.
Ouais.
Et ça nous donne, enfin nous on préfère cette approche-là, plus locale et plus proche en fait de la réalité de l'agriculture de en fait locale et en fait les gens s'y retrouvent parce que chaque agriculture est différente en France, on a quand même une diversité qui est énorme au niveau agricole, donc c'est important aussi que les gens sachent quelle agriculture il y a autour de chez eux, quoi.
Ouais, je termine juste sur le salon de l'agriculture et puis ensuite on va parler des salons à la ferme, c'est aussi pour ça qu'on vous a convié à ce moment-là puisque vous en organisez
ouais.
Très bientôt. Quand même d'être présent, c'est aussi le moyen de rencontrer des gens et d'exposer votre vision, c'est comme peut-être un moyen, voilà, peut-être pas le meilleur et pas celui que vous préconisez, que vous privilégiez, mais quand même de lutter de l'intérieur un petit peu.
Oui, complètement.
Ouais.
Oui, c'est vrai que enfin voilà, c'est toujours un peu même c'est assez tendu hein, les relations en
ouais.
plus avec la FNSEA au salon de l'agriculture, hein, ils sont pas toujours très tendres avec nous hein, sur le salon. Mais voilà, après on se doit d'être présent parce que je veux dire si on n'est pas là, c'est encore voilà, c'est laisser la porte ouverte aussi encore plus à leur vision de l'agriculture quoi. Donc c'est vrai que non, c'est important d'être présent et de montrer que d'autres voies sont possibles, quoi.
Très bien, je clôture le sujet du salon de l'agriculture. C'était pas le cœur de notre enjeu, mais ça consistait quand même en une porte d'entrée intéressante et d'avoir votre vision quand même sur ce grand événement. C'est toujours intéressant. Parlons effectivement donc de votre contre-proposition, on va utiliser ce terme-là. Parlons de la contre-proposition donc que vous évoquiez des salons des salons à la ferme donc.
Exactement. Donc en fait, on propose des salons à ferme, c'est-à-dire que régulièrement, enfin tous les ans, on change de ferme. Donc là, cette année, bon, on essaie quand même de privilégier des fermes en polyculture élevage, parce que c'est quand même des systèmes que l'on défend, voilà, où il y a une autonomie entre l'élevage qui nourrit la terre qui nourrit l'élevage. Voilà, c'est quand même des systèmes que nous on défend très fort, très fortement. Et donc, et puis en plus, au-delà de ça, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des animaux, les gens sont quand même beaucoup plus attirés de, d'aller voir des animaux, interagir avec les animaux. Surtout que là, en plus, on va tomber dans une période où il y aura des naissances, donc c'est toujours plus sympa aussi que voir des céréales à bout de champ sur des grandes plaines, quoi. C'est vrai que.
Et quelles sont donc les fermes sélectionnées par la Confédération dans les jours et les semaines qui viennent?
Eh bien, on va chez, on va donc cette année chez Émile Ardillier à Saint-Léonard-en-Beauce. Lui qui fait, il a un élevage ovin et des céréales à côté. Donc voilà, il est en plein agnelage. Donc c'est vrai que c'est ce que je disais, il va y avoir pas mal de petits agneaux, enfin agneaux agnel. Donc voilà, il y aura une visite autonome de la ferme, c'est-à-dire que les gens peuvent venir. Et il y aura un parcours où ils peuvent le faire eux-mêmes. Après, si besoin, nous, on peut très bien accompagner pour aller plus loin dans les explications sur les cultures, sur l'élevage. Et puis voilà. Et ensuite, après, on donne une thématique quand même. C'est important d'avoir aussi une thématique chaque année qui est différente. On a eu déjà sur la transmission des fermes. Et là, cette année, ce sera donc sur l'eau, l'enjeu de l'eau qui est de plus en plus primordial en fait là sur qui prend une place de plus en plus importante dans l'agriculture là.
Et ben j'avais prévu d'aborder l'eau, pas forcément tout de suite, mais vous me lancez sur le sujet, donc on va y aller. On y est encore en tout cas dans une sécheresse record pour un hiver. Est-ce que à la Confédération paysanne on est inquiet pour le reste de l'année?
Oui, tout à fait, hein, tout à fait. On est voilà parce qu'on a eu un été très sec l'année dernière et en fait des fois il y a des compensations l'hiver où les nappes peuvent se recharger. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation qui est assez inquiétante hein, sur les recharges en eau hein, dans les nappes. Hein. Donc voilà. Après, on verra au printemps comment ça va se passer, mais là ça fait quand même, on n'a pas eu d'eau, ça fait plus de 25 jours qu'on n'a pas d'eau. C'est quand même pas quelque chose d'habituel à cette période-là de l'année.
Hein. À l'heure où nous enregistrons, effectivement, je crois quand même qu'on est sur une succession de 30 jours hein, sans eau, il me semble. Donc effectivement, c'est assez inquiétant. Comment les agriculteurs travaillent sans eau? Est-ce que c'est même possible en fait?
Eh ben, c'est possible, c'est plus difficile.
Ouais.
Effectivement, quand même, hein, une plante pour pousser, ça a quand même besoin d'eau hein, clairement. Donc voilà, après c'est des systèmes aussi on essaie d'adapter les variétés aussi de semences, d'avoir des variétés qui sont plus résistantes. Voilà, on essaie d'adapter nos pratiques en fait à ce changement là quoi. Donc après ça évolue, mais c'est difficile hein, c'est pas quelque chose de simple à effectuer hein. Donc après, il se trouve que là, dans la ferme où on va, chez Émile Ardillier, c'est quelqu'un qui a l'irrigation. Mais après, c'est comme tout est une question de mesure, quoi. Si on utilise l'irrigation, à partir du moment où elle est bien utilisée, il n'y a aucun problème. C'est l'irrigation à outrance que là, ça pose problème. Voilà.
On l'entend là avec notamment certaines solutions comme l'irrigation chez Émile Ardillier. Est-ce que les solutions, les idées, elles viennent de l'intelligence collective, du bon sens paysan pour reprendre une phrase peut-être un peu caricaturale, mais ou est-ce que c'est plutôt descendant? Est-ce que ça se passe sur des instances, alors qu'ils seront peut-être pas comme j'imagine dans les syndicats principaux orientés vers du technosolutionnisme peut-être, mais c'est plutôt les solutions, elles viennent d'en bas pour pallier à ce manque d'eau, à ces problèmes divers écologiques.
Je pense que les solutions, il faut les prendre de tous les côtés.
Ouais.
Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise solution, il n'y a pas de bonne solution. Je pense qu'il faut tous en fait à chaque niveau, il faut arriver à faire évoluer les choses quoi. Donc, le bon sens paysan, c'est clairement quelque chose qu'on défend au sein de la Confédération paysanne. Ça, c'est voilà le côté enfin le bon sens quoi, clairement. Enfin, il y a pas rien, on peut pas, j'ai pas ajouté beaucoup plus. Je pense que tout le monde le comprend, ça, le bon sens paysan. Mais après, effectivement, il y a aussi des enjeux, enfin, disons politiques, sur l'autorisation ou pas de faire des choses pour améliorer l'irrigation. Ça, clairement, nous, on n'est pas favorable à toutes les grosses, les méga bassines qui se montent, voilà, qui en termes de biodiversité, c'est une catastrophe, hein, c'est.
Je sais, bah, voilà, vous faites bien d'aborder ce sujet. J'allais y venir également. Vous êtes assez en pointe à la Confédération paysanne sur justement le sujet des méga bassines. Si je ne fais pas d'erreur, je crois que le Loir-et-Cher n'est pas encore concerné par ce sujet. Ça menace quand
Il y a
même.
des bassines, hein, qui se sont montées, mais on n'a pas beaucoup entendu parler. Il y a des
Ouais.
choses qui se sont faites un peu en voilà
En
en
toute
comme
discrétion.
exactement, mais voilà, et je pense que c'est aussi un peu volontaire pour pouvoir faire les choses sans être embêté aussi, quoi, clairement. Après, effectivement, ce qui a été plus médiatisé, ça a été plutôt plus bas là, dans les Deux-Sèvres et en
Ouais.
Vendée, quoi. Mais on est aussi concerné, on est complètement concerné aussi par cette question, hein, clairement. Après, c'est vrai que nous, en fait, ce qu'on défend, c'est que les bassines, il faut les recharger, quoi. Donc là, des étés et hivers comme ça, les bassines, elles sont pas du tout rechargées, quoi.
C'est
Donc
ça.
l'eau, où est-ce qu'elle vient, l'eau, après? Donc voilà,
Quels
la
sont
question.
quels sont les recours contre ces nouveaux systèmes de méga bassines?
Eh ben, les recours, effectivement, bah, la résilience, hein, je
Là,
crois que
ouais.
c'est, voilà, on y revient, hein, mais c'est quand même un mot qui est, même s'il est à la mode, je crois que c'est quelque chose c'est une valeur qui est importante pour nous, hein. Et effectivement, le changement de pratique, les adaptations de semences, les rotations intelligentes avec des cultures qui sont moins demandeuses en eau. Voilà, après, il faut arriver à trouver des solutions. C'est pas, j'ai pas la solution miracle, hein, clairement, hein, mais je pense que c'est effectivement un effort collectif et des expérimentations collectives qui feront avancer la chose.
Paul Emmanuel, on fait une petite pause musicale, on écoute tout de suite Ridan avec le titre Agriculteur.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Que je n'ai plus vu ce coin de soleil à l'horizon. Ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe, que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Je me ferais peut-être agriculteur.
L'année 2023 va être vécue par les agriculteurs qui sont au sein de la Confédération Paysanne. Donc on a compris de l'inquiétude, mais aussi de la résilience et toujours de trouver de l'espoir dans différentes pratiques.
Ouais, bah après c'est vrai qu'on est encore tôt dans l'année 2023 pour me projeter, parce que c'est vrai qu'on est dans une période assez délicate, hein, sur effectivement on vit aussi l'inflation de la même façon que tout le monde, hein, donc on est obligé un peu de serrer les vis partout sur notre système pour essayer de tenir, hein, parce que forcément on vit l'inflation de la même façon, donc forcément tout augmente, donc on est obligé de répercuter ça sur nos prix. Ça, c'est pas forcément répercuté à tous les niveaux. Je veux dire, nous encore, on est des systèmes où on se défend d'avoir la main sur nos prix.
Ouais,
c'est quelque chose qui est quand même très important, parce qu'il y a, on a des grands systèmes très industriels. Là, ils ont pas forcément la main sur les prix, et souvent la répercussion sur l'inflation, elle se fait pas aussi facilement que ça sur le prix à la fin, quoi. Donc c'est souvent malheureusement le producteur qui trinque à la fin, quoi.
Vous me faites pareil une bonne transition, puisque j'allais venir aussi sur des enjeux plus globaux, et notamment la réforme des retraites, hein. Les agriculteurs, comme le reste de la population active, y est confronté. Alors j'ai pris les chiffres de l'AMSN, je ne sais pas si c'est les plus récents. En tout cas, j'ai vu, donc selon les chiffres de la mutualité sociale agricole, qu'un agriculteur avec une carrière complète partait aux alentours partait avec une retraite de 800 euros par mois environ. Un agriculteur non salarié, je précise, donc on est très loin du SMIC. Comment se passe la mobilisation dans le secteur de l'agriculture?
Oui, tout à fait. Alors ça c'est un sujet, nous on est tout à fait en raccord, hein, avec
les mobilisations actuelles.
Mobilisation actuelle, complètement. Après, c'est un sujet qui existe depuis longtemps, nous, au sein de la du monde agricole, ouais. Ouais, et de la Confédération Paysanne, effectivement. Et on a quand même eu une victoire, entre guillemets, c'est un peu... C'est parce que quand même, on a sur ce mandat-là, il a été validé d'avoir un minimum de retraite à 1000 euros normalement, pas retraité pour quelqu'un qui a une carrière complète.
Une carrière complète.
Toutes ses annuités.
Donc effectivement, il y aura a priori. Pardon, allez-y, finissez.
On arrive normalement à un minimum de 1000 euros pour une carrière complète, exactement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été validé. A priori, ça, c'est dans les faits, ça existe déjà, mais après 1000 euros, enfin, ça reste quand même très léger. Hein.
Ouais. Ça veut dire que si tout se passe bien et on n'est pas encore, voilà, la réforme est encore pas tout à fait entérinée, mais techniquement, les 800 euros par mois, la moyenne de 800 euros par mois pour un agriculteur sera de l'histoire ancienne dans les mois qui viennent.
Je l'espère, okay, normalement, je l'espère.
Ouais. Même si, effectivement, on peut encore contester et ne pas se satisfaire de cette somme, effectivement. Est-ce que tous les syndicats de l'agriculture sont unis, ou en tout cas raccord sur les difficultés de retraite des agriculteurs?
C'est une bonne question. On n'entend pas trop la position de la FNSEA là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'ils sont assez discrets. Je ne sais pas du tout leur position. Franchement, ouais, pour être honnête, hein, je ne sais pas du tout leur position. Je sais que nous, on a été mobilisés, enfin, on s'est mobilisés auprès de. On a participé, hein, même si on n'a pas forcément venu avec les banderoles de la Confédération paysanne, etc. On a beaucoup d'adhérents qui ont participé aux mobilisations dans le Loir-et-Cher, en tout cas, ça, c'est certain. On n'a pas vu d'autres collègues de la FNSEA, effectivement. Je ne sais pas trop. Ils sont assez discrets là-dessus.
Hein, une position peut-être plus alignée sur le MEDEF?
C'est fort probable, oui.
Ouais, ça marche. je voulais aborder un autre sujet avec vous, qui est la situation des exploitations agricoles. On entend beaucoup parler des agrandissements de surface, des rachats avec les départs en retraite qui ne sont pas forcément repris et donc qui sont rachetés par des exploitations voisines. Où en est-on? C'est toujours un mouvement qui est en cours, ça?
Ah oui, je pense, hein, ouais. Malheureusement, même si on a quand même de plus en plus de jeunes agriculteurs qui sont pas forcément issus du milieu agricole, ça c'est clair, c'est indéniable, quoi. Il y a de plus en plus de candidats pas forcément issus du milieu agricole, donc ça élargit quand même le monde agricole, ce qui est plutôt une très bonne chose. Mais après, c'est vrai qu'il y a des structures qui sont qui font peur à reprendre parce que il y a un gros investissement à faire au départ et qui peuvent faire peur pour quelqu'un qui est pas issu du milieu agricole et voilà, se lancer dans je comprends qu'il y ait des réticences aussi, donc c'est pour ça que souvent les personnes qui sont pas issues du milieu agricole vont plutôt s'orienter vers du maraîchage, vers des systèmes beaucoup moins coûteux en investissement, quoi. Donc mais bon, moi j'ai envie de leur il faut pas qu'ils s'arrêtent à ça parce que c'est pas que ça l'agriculture, c'est pas que le maraîchage et c'est vrai que y a beaucoup de fermes aujourd'hui notamment en élevage qui sont difficiles, quoi, qui ont des difficultés à être pris. Et aussi parce que le monde de l'élevage aussi subit la crise aussi en ce moment, hein, plus que les céréaliers aujourd'hui. Hein, c'est vrai que ça, c'est indéniable aussi. Hein, les systèmes d'élevage sont plus en difficulté aujourd'hui que les systèmes céréaliers. Hein, c'est
quelles, sont les, que... quelles sont les causes de ces difficultés?
Eh ben, tout simplement parce que les céréales, eux, sont plutôt bien valorisées, donc ont un prix de vente qui a augmenté, même si là aujourd'hui ça se tasse un petit peu. Là, je parle du conventionnel, hein, parce que le bio, en agriculture bio, on reste sur des prix qui sont assez stables. Et c'est ce qui est, voilà, c'est on fonctionne pas de la même façon. Mais sur le système conventionnel, il y a les prix ont été très intéressants l'année dernière et donc aujourd'hui, il est plus intéressant de faire des céréales que de faire de l'élevage parce que les prix, forcément, le prix des céréales font augmenter le prix de l'aliment des animaux. Mais par contre, le prix de l'animal à la fin, lui, il augmente pas proportionnellement au prix des céréales. Donc, vous voyez, à un moment donné, ça bloque, quoi, voilà.
Ouais, c'est donc la chaîne de production qui est quand même défaillante à plusieurs endroits, quoi.
Tout à fait, ouais. Après, il faut continuer pour moi, il faut se battre, hein, faut continuer, quoi. Il y a pas de raison que, après, c'est des cycles aussi, faut espérer que ça évolue et que ça se, comment dire, ça se s'équilibre au fil des années, quoi.
Comment on peut se renseigner si on veut reprendre une exploitation et qu'on contacte la conf? Comment ça se passe?
Alors, c'est tout simplement, vous pouvez contacter l'ADR, c'est une association qui est en parallèle à la Confédération paysanne, donc l'ADR 41. Donc, c'est une association de développement d'agriculture. Donc, là, ça peut être tout à fait c'est une première piste où nous, on a un répertoire de fermes à reprendre et qui sont, voilà, où il y a souvent des gens qui partent à la retraite, qui sont à reprendre. Ensuite, vous avez le réseau, il y a plein de systèmes différents, hein. Vous avez le réseau Terre de Liens, qui est aussi un réseau qui s'est bien développé et qui est aussi un répertoire de fermes à reprendre de la même façon. Et puis ensuite, je dirais en dernier lieu, et normalement, la Chambre d'agriculture, c'est aussi une des missions de la Chambre d'agriculture d'aider à la transmission.
C'est l'heure de la recommandation. Chaque semaine dans la lorgnette, on vous propose un article, un podcast, une série ou un ouvrage qui fait référence au thème que nous abordons avec notre invité. Cette semaine, je vous propose donc un article du média en ligne Reporter, spécialisé sur les questions d'écologie et d'environnement, qui parle notamment justement du problème de l'eau, avec cet article titré En Provence, des agriculteurs se préparent au manque d'eau. Dans les Bouches-du-Rhône, la sécheresse sévit déjà. Les agriculteurs réfléchissent à mieux partager l'eau en adaptant l'irrigation. 17 février 2023, sur la commune de Mériargues, en Provence, la terre est sèche, poudreuse par endroits, faute de pluie. Le thermomètre affiche plus de 15 degrés sous un grand soleil, idéal pour cette ferme ouverte organisée par la Confédération paysanne des Bouches-du-Rhône. Mais la préoccupation n'est pas loin derrière les sourires. Depuis une semaine, le préfet du département l'a de nouveau placé en vigilance sécheresse, une situation exceptionnelle en période hivernale. Des particuliers aux industriels et paysans, tous sont déjà appelés à avoir un usage économe de l'eau. Ce liquide de plus en plus précieux est justement le thème retenu cette année par le salon à la ferme, organisé pendant une semaine par la Confédération paysanne sur tout le territoire français. Ici, c'est Nicolas El Batari, producteur de céréales, oléagineux et légumineuses, qui se prête au jeu en accueillant à La Pastière, son lieu de travail, confrères, élus et journalistes. Nicolas Giraud, porte-parole nationale de la Confédération paysanne, est venu l'épauler. L'eau est un sujet qui s'est imposé suite aux luttes contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres, explique-t-il. Nous avons voulu montrer que le partage équitable de la ressource est une question bien plus large qui concerne l'ensemble de la société. Éric Garcin, maire de la commune voisine de Jouques et lui-même agriculteur, opine tristement. 130 hectares ont déjà brûlé dans les Alpilles. Ces sécheresses s'aggravent très vite. Quand on aura soif, on regardera les piscines, innombrables dans notre région, d'un autre œil. Dans l'assistance, les témoignages se télescopent. Des vignerons ont entrepris d'arroser leurs vignes en souffrance, du jamais vu. Richard Lorgerot a fait pâturer ses moutons le long de la rivière, où l'on trouvait encore de l'herbe. Son confrère Luc Falco, chevrier de Cuges-les-Pins, rappelle l'évidence, avec ses chaleurs, pour manger, les bêtes ont besoin de boire. Cet article, dont je viens de vous lire un extrait, a été écrit par la journaliste Gaëlle Cloarec. L'intégralité de cet article est à retrouver sur le site de reporter.fr. Paul Emmanuel, est-ce que il y a des choses à je voulais vous relancer aussi. Comment vous voyez ces initiatives? J'ai vu passer récemment dans un article de presse une association de trait, du retour du cheval de trait. Est-ce que c'est des choses que vous suivez, qui pourraient être un petit peu développées, encouragées? Comment vous suivez ce genre de choses?
Oui, bah on le suit. On a même organisé justement par l'intermédiaire de l'ADR. En fait, il y a des formations qui sont organisées. Et donc, ça a été une des formations sur la traction animale, quoi,
ouais, c'est ça,
qui a été organisée. Donc après, moi, je fais pas de généralité. Hein, tout dépend du système, hein, de ce qu'on fait, comment c'est adaptable ou pas. Pour moi, effectivement, dans les vignes, pourquoi pas. Après, moi, je suis pas forcément. Je trouve que la mécanisation, ça a aussi son intérêt. Hein, c'est aussi enfin voilà, pour moi il y a pas de règles, tout dépend de ce qu'on fait, de la terre ou de la terre qu'on travaille, ce qu'on veut faire, enfin donc après toutes les solutions sont bonnes, c'est ce que je disais avant, franchement tout est bon à prendre à partir du moment où ça a du sens, voilà.
Ouais, ça n'a pas d'intérêt de rester marginal, mais il faut voir le contexte et il faut savoir l'utiliser à bon escient, quoi.
Tout à fait.
OK. Ouais. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Paul-Emmanuel?
Et je voulais voilà, rendez-vous samedi à partir de 14h, donc à la ferme d'Émile Hardy à Saint-Léonard-en-Beauce. À partir de 14h jusqu'à 17h30, vous serez accueillis avec plaisir sur la ferme pour à la fois des visites autonomes, visites guidées et puis un peu un temps d'échange autour de la question de l'eau.
C'est noté, on remettra toutes ces informations sur la page du podcast de cette émission. Donc merci Paul-Emmanuel Boulay, donc porte-parole de la Confédération Paysanne du Loir-et-Cher et agriculteur vous-même. On vous remercie de nous avoir réservé quelques minutes de votre temps pour parler des enjeux de l'agriculture. Merci et à bientôt.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Je remercie encore Paul-Emmanuel Boulay pour cet entretien accordé au téléphone un peu plus tôt dans la semaine. On se quitte, c'est la fin de cette lorgnette consacrée à l'agriculture et au salon de l'agriculture qui s'ouvre ce samedi. La lorgnette se termine comme chaque semaine par le journal de bord d'un élu local avec Nicolas Orgelet et Gaël Bernard. Dans quelques minutes, vous retrouvez la Roxette List avec l'ami Christophe. Bonne fin de journée sur Studio Zef et à très vite.
Journal de bord d'un élu local, épisode 72 aujourd'hui, retraitée paysanne, avec notre invitée Anne Martin de la Confédération Paysanne.
C'est parti!
Alors qu'on avait fini d'enregistrer nos podcasts avec Anne Martin, on a continué à discuter de la réforme, des retraites, et c'était passionnant. Alors, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois avec nos invités depuis le début de ce podcast, on a repris l'enregistrement, j'ai rebranché les micros, j'ai relancé les machines, et on a oublié de dire bonjour. Je vais donc vous présenter notre invitée, c'est Anne Martin, une jeune retraitée paysanne, membre de la Confédération Paysanne, et sans transition, commençons l'épisode. Alors Anne, dis-moi, tu nous as dit que à la Confédération, vous aidiez beaucoup à la reprise de ferme. Toi, tu es partie en retraite il n'y a pas si longtemps. Comment ça s'est passé?
Eh bien, oui, la Confédération Paysanne essaie vraiment de mettre des choses en place pour accompagner les paysans dans le départ à la retraite. Souvent, on est quand même très, très attaché à nos terres, à nos bâtiments, à notre... On y a tellement passé de temps. Et en fait, pour que ça puisse bien se passer, il faut absolument se faire accompagner. Et nous, par exemple, on a suivi plusieurs formations avec la conf sur cette thématique de la cession de nos fermes. Et en fait, au fur et à mesure, on a vraiment progressé dans notre réflexion. En fait, il fallait absolument qu'on déménage de notre ferme. Il fallait absolument qu'on trouve d'autres activités qui nous permettent de se détacher aussi un peu de la ferme. Il y a aussi toute la réflexion autour du chiffrage. En fait, il y a la valeur patrimoniale d'une ferme, il y a la valeur de comptable qui est basse, la valeur patrimoniale est très haute. Et après, nous, avec la conf, on a fait un calcul de valeur de reprise, c'est-à-dire que les jeunes, avec l'argent qu'ils vont investir, ils vont pouvoir et se rémunérer et nous payer. Donc c'est une valeur entre les deux.
Et du coup, vous avez été mis en contact avec les jeunes. C'est la conf qui faisait le lien entre les jeunes et vous, pour que vous trouviez un accord dans la vente?
Comment... Alors non. En fait, cette réflexion-là, on l'a eue qu'entre ses dents, mais on a eu des temps avec les repreneurs. Il se trouve que c'est nous qui avons trouvé les contacts. Hein, les gens, en fait, c'est des gens qu'on a salariés et qui, après, se sont intéressés à la reprise de notre ferme. Mmh. Mais dans la réflexion pour la reprise, on a passé, je crois, 2 journées avec nos repreneurs, avec une sociologue. C'était super intéressant. Ouais. Sur justement, elle nous a fait travailler sur les moments de vie, les moments charnières et tout ça, et sur justement les différentes approches pour qu'on apprenne à mieux se comprendre. D'une part leurs envies, nos envies à nous, et ça c'était une des 2 journées parmi au moins 8 autres de réflexion sur la... Et ça franchement, sans ça, je pense que la cession d'une ferme peut des fois être difficile, parce que c'est tellement, on y met tellement ses tripes que c'est difficile de prendre du recul et de réussir, et après de trouver des candidats. Le fait d'être dans des réseaux, la Confédération Paysanne, comme il y a plein de jeunes qui cherchent à s'installer et plein de gens qui cherchent à céder, on a des contacts, quoi. Et nous, par exemple, nos voisins, ils ont, dans la plupart des cas, ils ont leurs terres sont parties à l'agrandissement parce qu'ils n'ont pas trouvé de repreneur.
Ah ouais.
On avait accueilli ici Claire Charrier, qui est partie pour devenir agricultrice et faire de l'élevage. Elle était sur un projet de reprise d'une exploitation. Et justement, elle allait travailler dans la ferme, connaître les gens, etc. pour reprendre. Et ça n'a pas marché. Et au final, elle est partie sur un autre projet. Peut-être par manque d'accompagnement ou de suivi.
Bah oui,
sur...
oui. Bah, oui. Oui, parce qu'en fait, nous, on a vu plein de cas de gens qui commencent à faire des démarches, alors qu'ils disent « on ne se met pas d'accord sur ci ou ça », mais en fait, c'est d'autres raisons. Il faut arriver à bien identifier quelles sont les vraies raisons qui nous bloquent, quoi. Parce que des fois, on trouve des prétextes pour dire « ah ben non, mais là, ça ne va pas aller, hein, ce n'est pas possible ». Mais bon, c'est vrai qu'on a du chemin à faire. Par exemple, nous, c'est des gens qui ne sont pas d'origine agricole, qui sont installés chez nous. Je crois qu'ils pourraient même vous le dire, ils sont... je pense à un qui est arrivé et qui était vraiment pas du tout pratique dans... Et ça veut dire qu'il faut faire tout un cheminement, parce que quand on est un peu né dans l'agriculture et qu'on a fait tout,
on se dit il va jamais y arriver, ça va pas tenir son truc.
Ouais,
quoi.
Ouais, voilà.
Donc c'est dur de faire confiance.
Et c'est quand même fou, vraiment, vraiment. Alors en fait, nous, on s'est dit, ce qui est important, c'est qu'on a les mêmes objectifs, on a envie de la même agriculture. Donc tout le reste, on va réussir à le transmettre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On donne encore des coups de main quand il y a besoin de réparation, j'y vais de temps en temps. Là, par exemple, il y en a un qui vient de m'appeler pour me demander un petit détail. Voilà, on est encore très en lien.
Oui, c'est bien aussi.
Mais oui, c'est bien important. Parce qu'il y a besoin d'un accompagnement. Ouais, mais c'est vrai que sans l'accompagnement de la Confédération Paysanne, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile. Quoi.
J'ai l'impression que c'est comme... Tu nous parles d'un enfant, que tu as confié ton enfant à quelqu'un et que tu as peur qu'on s'en occupe pas bien ou pas selon tes critères de manière dont on doit élever un enfant pour qu'il grandisse bien. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi tu dis que c'est qu'il fallait à tout prix que vous cédiez la ferme et que vous quittiez la ferme? Ou ça a été une vraie difficulté, ça, c'est ça
Oui, au moins au début. Mais parce qu'en fait, c'est une ferme qui est... Enfin, les parents de Gilles étaient déjà là. Nous, on a fait vraiment plein de rénovations. Au début, on s'était dit, on va faire dans tous ces bâtiments, on va faire un éco-habitat, un cohabitat avec d'autres. Enfin, voilà, on imaginait des projets en restant dans le site qu'on avait quand même, qui était très, très abîmé quand on est arrivé et qu'on a passé beaucoup de temps à restaurer, quoi. Et c'est vrai qu'on se dit, quand même, c'est retrouver un habitat comme ça. Et dans le coup, voilà, on est parti sur complètement un autre type d'habitat en se disant, on arrête de chercher une vieille ferme. Parce qu'on n'arrivera pas à trouver, on n'a pas envie de repasser l'énergie qu'on a passée dans la nôtre. Et puis on est parti sur un pavillon qu'on a rendu écolo. On est parti sur... Mais tout ça, ça demande du temps, quoi, et de la réflexion. Ouais.
Tu disais que finalement, vous avez été aussi accompagné vers les projets la retraite.
Oui, oui, oui.
Et donc, justement, on va peut-être conclure là-dessus. Les combats sociaux qui sont en ce moment par rapport à la nouvelle réforme de la retraite, qu'est-ce que ça t'évoque, toi?
Moi, ça m'évoque qu'il faut vraiment, faudrait pas lâcher, faut qu'on puisse s'arrêter et avoir encore de l'énergie pour faire d'autres choses. Au moment où nous, on cède, c'est une telle énergie, toute la transmission, le fait d'être obligé en plus de retrouver un habitat, de faire des travaux. Et si on le fait trop tard, c'est trop dur, quoi. Je pense que vraiment, 62 ans, c'est le bon âge, hein.
Ouais. Il faut pas. Et du coup, les projets derrière, vos projets de retraite, c'est.
Ah ben nous, on est très contents. Hein. Gilles, il s'est beaucoup investi dans une association. Il a toujours été très branché par tout ce qui était énergie dans Blaise-Ouatt.
On l'a reçu.
Voilà. Ouais. Moi, je viens de rentrer au CIDFF, donc la place des femmes. Et puis, dans une association locale qui s'appelle Les Verts Solidaires, où on aborde toutes les questions d'écologie dans le village. Et dans le coup, c'est génial parce que donc on a changé de village, mais ça nous permet de connaître plein de gens et d'être en réseau, quoi.
Et tu gagnes combien en retraite par rapport à...
Alors, nous, au début, quand on a pris notre retraite, Gilles, il était à 805, il était à 750 et moi, j'étais à 850 de retraite. Et là, on a eu une revalorisation. Donc lui, il est passé à 1100 euros, mais comme moi, je ne suis qu'une femme, je suis même pas à 1000 euros, quoi. Mais on a cédé notre ferme, donc il y a un capital qui n'a pas été imposé, donc on a assez de quoi vivre, on va pas se plaindre, quoi. Mais un paysan qui part avec cette retraite-là et qui a pas pu céder sa ferme, imaginez la difficulté, quoi.
Il faut avoir du patrimoine.
Il faut absolument avoir du patrimoine.
C'est pas le travail qui est récompensé, c'est le patrimoine.
Absolument.
Donc ça pose question
c'est complètement dingue.
Sur le mérite un peu.
Ben oui. Il faudrait qu'on soit imposé sur la cession de nos fermes.
On récompense pas ton temps de travail. Parce que là, tu me disais, Gilles, 70 heures par semaine, toi un peu moins, mais en tout cas, bien plus de 35 heures. Et au final, ce qui vous rapporte de l'argent, c'est pas votre retraite par rapport à votre travail, donc par rapport au mérite, mais par rapport au patrimoine.
Ouais, c'est le patrimoine.
Hérité en plus. Ah ouais. Et donc ça pose une vraie question aussi sociale.
Oui, c'est complètement... ça va pas du tout, quoi.
Bon, très bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci Nicolas.
Merci Gaël.
Merci Anne d'être venue jusqu'à nous pour raconter tout ça.
Et bien merci beaucoup.
Merci.
Salut.
Salut.
Moi, c'est Nico et c'est mon premier mandat.
Ton premier mandat de quoi ?
Je suis vice-président d'une agglomération et co-président d'un groupe écologiste à Blois.
Ah, moi, je suis Gaël, on est potes, et tu m'as proposé de raconter ce mandat dans un podcast.
Un journal de bord qui témoigne de la vie politique locale au fur et à mesure de l'actualité.
Et on en a déjà fait 60. Vous pouvez les trouver sur toutes les applis de podcast à raison de 3 par mois. Les applis de podcast, c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast.
Et on est aussi sur la radio locale Studio Zef.
Agitateur de fréquence.
Dans l'émission La Lorgnette.
C'est 91.1, c'est ça ? FM.
Chaque jeudi.
À 17h.
Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao.
Ciao, merci. Ciao, ciao.